Ben Hur, chapitre 32, les deux lépreuses. Une femme d'Israël ensevelie ici avec sa fille, hâtez-vous de venir nous délivrer ou nous mourrons. Enfin, quelqu'un avait découvert la mère de Ben Hur et Tirza, sa sœur. Au matin de leur arrestation, 8 ans auparavant, elles avaient été conduites à la tour où Gratien se préparait à les faire disparaître. Il avait choisi la citadelle parce qu'elle se trouvait placée sous ses ordres immédiats et la cellule numéro 6 parce qu'elle pouvait facilement être dissimulée et surtout parce qu'il la savait infectée de lèpre. De cette manière, il ne les mettait pas seulement en lieu sûr, il les exposait encore à une mort certaine. Il les y fit conduire de nuit par quelques esclaves qui complétèrent leur sinistre mandat en murant la porte, après quoi ils furent séparés les uns des autres et envoyés assez loin de Jérusalem pour que l'on n'entendît plus parler d'eux. Pour se soustraire à l'accusation possible d'avoir commis un double meurtre et non puni des coupables, Gratien jugeait prudent de jeter ses victimes dans un cachot où une mort lente mais certaine les attendait. Afin de ne pas abréger cette existence misérable, il choisit un condamné que l'on avait préalablement rendu aveugle et muet et le plaça dans l'unique cellule adjacente pour qu'il leur fît passer leur nourriture. Jamais le pauvre R ne pourrait raconter son histoire et rétablir son identité, ni celle de ses compagnons de captivité. C'est ainsi que le Romain suivait un plan dû en grande partie à Messala et destiné à le débarrasser de tous les obstacles qui auraient pu s'opposer à la confiscation des biens des Hurs, ces biens dont jamais la moindre parcelle n'avait grossi le trésor impérial. Le dernier soin de Gratien fut de renvoyer sommairement le vieux geôlier de la prison, parce qu'il aurait été impossible de lui cacher ce qui venait de se passer, vu sa connaissance de la disposition des cellules. Nommer Gésius à la place du gardien congédié, faire établir un nouveau plan et le lui confier avec les instructions qu'il venait de raconter au tribun, avait été pour le procurateur l'affaire de quelques heures. Après quoi il s'était dit, sans un remords, que personne n'en entendrait plus parler des malheureuses enfermées dans la cellule dont le nouveau geôlier ignorait jusqu'à l'existence. Les deux femmes étaient assises près d'une étroite ouverture creusée dans l'épaisse muraille afin de laisser un peu d'air pénétrer dans la cellule. La lumière passant au travers de cette ouverture projetait sur elles un reflet blafard qui leur donnait des airs de fantômes. Elles n'avaient ni vêtements, ni couverture et se tenaient embrassées. Si la richesse a des ailes, si le confort s'évanouit, si l'espoir s'éteint, l'amour demeure, et Dieu est amour. Le sol, à l'endroit où elle se trouvait, était poli comme du marbre. Combien d'heures, durant ces 8 années, n'avait-elle pas passé devant cette ouverture, nourrissant un vague espoir de délivrance, auprès de ce rayon de lumière qui, si mince fut-il, leur faisait l'effet d'un ami? Lorsqu'elle commençait à l'apercevoir glissant lentement sur les pierres, elle savait que c'était le matin. Quand il disparaissait, elle se disait que le monde allait être plongé dans la nuit, qu'elle ne serait nulle part aussi longue et aussi profonde qu'autour d'elle. Le monde, leurs pensées y retournaient sans cesse. Elle se voyait, passant au travers de cette étroite ouverture, comme au travers d'une porte royale, et parcourant l'univers, en demandant à chacun, l'une son fils, l'autre son frère. Elles employaient leurs interminables loisirs à le chercher en esprit sur les mers et dans les îles. Aujourd'hui, se disait-elle, il est dans une telle ville, demain il sera dans telle autre. Elles le voyaient toujours fuyant d'un endroit à un autre, car elles étaient certaines que puisqu'elles vivaient pour l'attendre, lui vivaient pour les retrouver. Combien souvent leurs pensées ne se croisèrent-elles pas sans qu'ils s'en doutassent à travers l'espace? Il leur était doux de se répéter l'une et l'autre. Tant qu'il vivra, il ne nous oubliera pas. Tant qu'il se souviendra de nous, nous pouvons conserver de l'espoir. Et cela suffisait pour soutenir leur force au sein de la terrible épreuve à laquelle elles auraient peut-être succombé sans cela. Il s'était opéré en elles un changement que ni les années ni la captivité n'auraient suffi à produire. La mère était belle autrefois, et sa fille aussi. Personne, même l'ami le plus tendre n'aurait pu en dire autant à cette heure. Leurs cheveux étaient longs, emmêlés et extrêmement blancs. Tout leur aspect avait quelque chose de repoussant. Peut-être n'était-ce que l'effet de la lumière blafarde qui les éclairait, ou bien de la faim et de la soif commençant à les torturer depuis que le prisonnier qui les servait avait été emmené, c'est-à-dire depuis la veille. Tirza, serrée contre sa mère, gémissait à fendre le cœur. « Sois tranquille, Tirza, on viendra. Dieu est bon. Nous n'avons pas cessé de penser à lui ou de le prier chaque fois que nous avons entendu retentir les trompettes là-bas, dans la direction du temple. Vois donc la lumière, elle vit encore. Le soleil brille à son midi. Il ne peut être guère que la septième heure. Quelqu'un viendra. Sois-en sûr, ayons la foi. Dieu est bon. » Ainsi parlait la mère, et ses simples paroles atteignirent leur but, bien que Tirza, depuis que 8 années avaient passé sur sa tête, ne fût plus une enfant. « Je veux essayer d'être forte, mère, dit-elle. Tes souffrances doivent être aussi cuisantes que les miennes, et je désire tant vivre pour toi et pour mon frère. Comme ma langue brûle et comme mes lèvres sont écorchées, je me demande où il est et si jamais il nous retrouvera. » Leur voix avait un son dur, guttural et métallique. Aucun de ceux auxquels elle était autrefois familière ne l'aurait reconnue. La mère serra sa fille plus étroitement contre elle en disant « J'ai rêvé de lui la nuit dernière, Tirza. Je le voyais aussi clairement que je te vois maintenant. Nous devons croire aux rêves, car tu sais que nos pères y croyaient. Le Seigneur leur a si souvent parlé de cette manière. Je rêvais que nous étions dans le parvis des femmes, devant la porte appelée la Belle. Il y avait beaucoup de femmes avec nous, et il vint et se tint dans l'ombre de la porte, d'où il nous regardait toutes attentivement. Mon cœur battait à coups précipités. Je savais qu'il nous cherchait. Je tendis mes bras vers lui et m'élançai en avant en l'appelant. Il m'entendit et me vit, mais ne me reconnut pas, et l'instant d'après, il avait disparu. En sera-t-il ainsi, ma mère, si nous le rencontrions en réalité? Sommes-nous donc si changés? Peut-être. La tête de la mère retomba sur sa poitrine et son visage se contracta douloureusement. Cependant, elle se remit et acheva sa phrase. Mais nous pourrions nous faire connaître à lui. Tirza se remit à gémir en se tordant les mains.
« De l'eau, mère, de l'eau, quand ce ne serait qu'une goutte !»
La mère regardait autour d'elle d'un air désolé. Elle avait nommé Dieu si souvent, et si souvent elle avait promis la délivrance en son nom, que la répétition de ses paroles commençait à lui faire à elle-même l'effet d'une ironie. Il lui semblait qu'une ombre interceptait la lumière et que c'était celle de la mort, attendant pour pénétrer dans la cellule que sa foi l'eût abandonnée. Sans savoir ce qu'elle disait, et parce qu'elle sentait qu'elle devait parler coûte que coûte, elle murmura « Et patience, Tirza, ils viennent, ils sont presque arrivés !» Au même moment, il lui sembla qu'elle entendait du bruit dans la direction de la petite trappe qui était le seul endroit par lequel elle pût communiquer avec le monde extérieur. Et vraiment, elle ne se trompait point. L'instant d'après, le cri du condamné pénétrait dans la cellule. Tirza l'entendit également, et elles se levèrent en se tenant toujours par la main. « Béni soit à jamais l'Éternel !» s'écria la mère, avec la ferveur de sa foi renaissante. « Oh, ici » entendirent-elles. « Qui êtes-vous » La voix qui leur parlait était une voix étrangère. Qu'importait ? Ces paroles étaient les premières et les seules que la veuve eût entendues prononcer depuis 8 ans, par quelqu'un d'autre que par Tirza. Une révolution puissante s'opéra en elle. Il lui semblait qu'elle venait de passer en un clin d'œil de la mort à la vie. « Une femme d'Israël, ensevelie ici avec sa fille, hâtez-vous de nous secourir ou nous mourrons. » « Prenez courage, je vais revenir. » Les deux femmes sanglotaient tout haut. On les avait découvertes, le secours approchait. Leur désir s'envolait bien loin, emporté sur les ailes de l'espoir. On allait les délivrer et leur rendre tout ce qu'elles avaient perdu, leur demeure, leur fortune, leurs fils, leurs frères. La pâle lumière qui les enveloppait leur semblait glorieuse comme celle du jour à son midi. Et, oubliant la faim, la soif et la mort qui les menaçaient, elles tombèrent à genoux et pleurèrent. Cette fois, elles n'eurent pas longtemps à attendre. Le tribun n'avait pas perdu de temps. « Où êtes-vous » cria-t-il dès qu'il fut arrivé près de la trappe. « Ici !» répondit la mère en se levant. Aussitôt, elle entendit du bruit partir de notre point de la muraille. Le bruit de coups frappés contre les pierres avec de lourds instruments de fer. Elle ne parlait pas, mais elle écoutait, ainsi que Tirza. Elle comprenait toutes deux que l'on travaillait à frayer pour elle le chemin de la liberté. Ainsi, écoutent les mineurs, ensevelis dans les mines profondes, lorsqu'ils entendent l'écho répercuter le bruit des pics, les yeux fixés sur l'endroit d'où ils s'attendent à voir venir le jour. Les bras de ceux qui travaillaient étaient vigoureux, leurs mains habiles, la meilleure volonté les animait. D'instant en instant, les coups devenaient plus distincts. De temps à autre, on entendait tomber une pierre. La libération approchait. Elle commençait à comprendre ce que les travailleurs disaient, et puis, au bonheur, à travers un interstice, elles virent briller la lumière rouge des torches.
« C'est lui, mère, c'est lui, il nous a trouvés enfin !» s'écria Tirza, emportée par l'impétuosité de son imagination.
Mais la mère répondit humblement « Dieu est bon !» Un bloc de pierre tomba dans l'intérieur de la cellule, suivi de toute une avalanche de débris, et la porte s'ouvrit. Un homme couvert de mortier parut sur le seuil et s'y arrêta, en élevant une torche au-dessus de sa tête. Mais il se rangea de côté pour laisser passer le tribun le premier. Le respect dû aux femmes n'est pas purement conventionnel. Il est un hommage rendu à la délicatesse de leur nature. Le tribun s'arrêta en les voyant s'enfuir loin de lui, poussé non par la crainte, mais par la honte, et aussi, hélas, par quelque chose d'autre, et il entendit retentir dans le coin obscur où elle s'était réfugiée ces paroles les plus tristes, les plus désespérées que puissent prononcer des lèvres humaines.
« Ne nous approche pas, nous sommes des souillés !»
À la lueur vacillante de leurs torches, tous ces hommes regardaient avec effroi.
« Souillés !»
répéta encore comme un écho la même voix, avec un accent d'une tristesse déchirante. Ce cri ressemblait à celui d'un esprit s'enfuyant loin des portes du paradis en jetant derrière lui un regard d'amer regret. Et la pauvre veuve, au moment où elle accomplissait ainsi son devoir, réalisa tout à coup une chose terrible. C'est que cette liberté qu'elle avait demandée dans ses prières, dont elle avait rêvé, qui de loin lui apparaissait si radieuse, n'était qu'une dérision, comme ces fruits de la mer morte, si beaux en apparence, et qui tombe en poussière dans la main qui vient les cueillir. Hélas, Tirza et elle étaient lépreuses.
Ah, qui dira ce que ce mot signifie ?
Quatre sortes de personnes peuvent être considérées comme mortes, dit le Talmud, les aveugles, les lépreux, les pauvres et ceux qui sont sans enfants. Être lépreux, cela revenait à être traité comme une personne morte, à être exclu des villes comme un cadavre, à ne plus pouvoir parler à ceux que l'on aimait le mieux, autrement qu'à distance, à ne demeurer qu'avec des lépreux. Être lépreux, c'était être privé de tous ses privilèges, perdre le droit de participer aux rites du culte, n'avoir plus celui de porter autre chose que des vêtements déchirés, c'était être condamné à se couvrir jusqu'à la lèvre du dessus et de crier toujours « Souillez, souillez !» Être lépreux, enfin, c'était à ne plus avoir d'autre demeure que les déserts et les tombeaux abandonnés et ressembler à des spectres matérialisés. C'était devenir une vivante offense pour les autres, un tourment pour soi-même. C'était craindre la mort et n'avoir cependant plus rien d'autre à espérer. Un jour, elles n'auraient su dire quand, à quelle date, ni en quelle année, car elles avaient perdu la notion du temps dans l'enfer qu'elles vivaient. La mère s'était aperçue qu'elle avait sur la paume de la main une croûte sèche, une chose de minime importance, qu'elle essaya de faire disparaître en la lavant. Elle adhérait à la peau d'une manière persistante. Cependant, elle ne s'en inquiéta guère, jusqu'au moment où Tirza se plaignit d'en avoir une aussi sur la main. Elles n'avaient à leur disposition que bien peu d'eau, mais de ce moment, elles en burent le moins possible afin de pouvoir en employer davantage à se nettoyer. Malgré leurs efforts, toute la main fut bientôt attaquée. Chez l'une et chez l'autre, la peau se fendait. Les ongles se détachaient de la chair. Elle n'éprouvait pas de grande douleur, mais plutôt un malaise sans cesse grandissant. Plus tard, leurs lèvres commencèrent à devenir sèches et à se coller contre leurs dents. Un jour, la mère qui luttait contre toutes les impuretés de leur cachot, prise du soupçon que l'ennemi s'emparait du visage de Tirza, la conduisit devant le rayon de lumière qui filtrait à travers l'ouverture de la muraille et la regarda attentivement. Hélas, ses craintes ne la trompaient point. Les sourcils de la jeune fille étaient blancs comme la neige. Comment exprimer l'angoisse qui s'empara d'elle à cette vue ? Elle restait là sans prononcer une parole, immobile, l'âme comme paralysée, incapable d'une autre pensée que de celle-ci. La lèpre ! La lèpre ! Lorsqu'elle se reprit à réfléchir, ce ne fut pas à elle-même qu'elle songea, mais à sa fille, et sa tendresse se changea en un de ces héroïsmes dont seule une mère est capable. Elle ensevelit son effroyable secret au plus profond de son cœur. Bien qu'elle n'eût plus aucun espoir, elle redoubla de sollicitude envers Tirza et s'ingénia à lui cacher la nature de leur mal, à lui persuader même qu'il n'avait aucune gravité. Elle s'efforçait de la distraire en inventant quelques jeux, en lui répétant d'anciennes histoires et en imaginant des nouvelles. Elle éprouvait un plaisir mélancolique à entendre Tirza chanter, tandis que ses propres lèvres sèches et brûlantes murmuraient les psaumes du royal chantre de son peuple. Ces psaumes qui les calmaient, leur faisaient oublier un moment leur triste sort et leur rappelaient le souvenir du dieu qui semblait les avoir complètement abandonnés. Lentement, régulièrement, avec une inexorable persévérance, la maladie suivait son cours, blanchissant leur tête, faisant tomber en lambeaux leurs lèvres et leurs paupières, écaillant leur peau. Bientôt, elle s'attaqua à leur gosier et leur voix devint dure et rauque. Et à leur jointure qui se durcissait peu à peu sans qu'il y eût de remède, la mère ne l'ignorait pas. Le mal horrible gagnerait leurs poumons, leurs artères, leurs os. L'existence leur devenait toujours plus pénible et seule la mort, qui pouvait tarder bien des années encore, mettrait un jour un terme à cet excès de souffrance. Le moment vint, moment longtemps redouté où la mère, obéissant à ce qui lui paraissait un devoir, dut dire à Tirza de quel nom s'appelait leur maladie, et toutes deux prièrent avec le désespoir de l'agonie, afin que la fin ne fût pas trop lente à venir. Et cependant, si grande est la puissance de l'habitude, qu'avec le temps, les deux affligés apprirent à parler avec calme de leur mal. Elles s'accoutumèrent à la hideuse transformation que subissait leur personne et reprirent quelque goût à l'existence. Un lien les rattachait encore à la terre, et oubliant leur isolement, elles soutenaient leur courage en rêvant à Ben-Hur et en parlant de lui. La mère promettait à la sœur qu'elle le reverrait, et celle-ci lui en réitérait à son tour l'assurance, et ni l'une ni l'autre ne doutait qu'il ne fût également heureux de les retrouver. Ce revoir improbable, incertain, mais auquel elle songeait toujours, était le thème sur lequel elle se plaisait à improviser sans cesse de nouvelles variations, l'espoir qui les excusait, à leurs propres yeux, de ne point encore être morte. Un instant, au moment où la lumière entrait dans la cellule, comme l'aurore de la liberté, la veuve avait tout oublié. « Dieu est bon !» criait-elle. Mais cela n'avait pas duré. Et quand le tribun s'était montré sur le seuil de la porte, le sentiment du devoir s'emparant d'elle avec une force irrésistible lui avait fait pousser du coin où elle venait de se réfugier ce cri désespéré « Souillez ! Souillez !» Ah, quel effort l'accomplissement de ce devoir ne lui coûtait-il pas ? Mais aucune joie égoïste ne devait la rendre aveugle aux conséquences de sa libération, maintenant qu'elle y touchait enfin. Son ancienne vie heureuse ne pourrait plus jamais renaître. Si elle se rendait à la porte de la maison, qu'elle avait appelée la sienne, ce serait pour s'y arrêter et crier « Souillez ! Souillez !» Elle devrait imposer silence à son cœur aimant, car jamais personne ne répondrait plus à ses protestations d'affection. Son fils lui-même, ce fils objet de ses plus tendres pensées, devrait, s'il la rencontrait, demeurer à distance. S'il lui tendait les mains en criant « Mère ! Mère !» elle serait obligée, par amour pour lui, de répondre « Souillez ! Souillez !» Et son autre enfant, devant laquelle elle étendait, faute d'autre voile, les longues boucles de sa chevelure d'une blancheur surnaturelle, continuerait à être la seule compagne de sa vie dévastée. Et pourtant, la vaillante femme poussait ce cri mémorial, seule salutation qu'il lui serait permis désormais d'adresser à ses semblables. « Souillez ! Souillez !» Le tribun la entendit avec un frémissement, mais ne recula pas. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Deux femmes !» mourant de faim et de soif, mais n'approchez pas, et ne touchez ni le sol ni les murailles. Nous sommes souillés, souillés. Raconte-moi ton histoire, femme. Dis-moi ton nom, quand, par qui et pourquoi tu as été enfermée ici. Il y avait autrefois, dans cette ville de Jérusalem, un prince, Ben-Hur, l'ami de tous les Romains généreux et de César lui-même. Je suis sa veuve, et voici sa fille. Comment pourrais-je te dire pourquoi nous avons été jetés dans ce cachot ? Je l'ignore moi-même, à moins que ce ne soit parce que nous étions riches. Gratien saurait te dire qui était notre ennemi, et quand notre emprisonnement a commencé, moi, je ne le puis pas. Vois à quoi nous avons été réduites, Aie pitié de nous. » L'air était empesté et la fumée des torches l'alourdissait encore. Cependant, le Romain fit signe à l'un des hommes qui l'accompagnait de l'éclairer de plus près et se mit à écrire mot à mot la réponse de la prisonnière. Elle contenait tout à la fois, malgré sa brièveté, une histoire, une accusation et une prière. Aucune personne ordinaire n'aurait pu en faire une pareille et il ne pouvait que la croire et la plaindre. « Tu seras délivrée, femme, » lui dit-il en fermant ses tablettes. « Je vais t'envoyer de quoi manger et boire. »
« Et des vêtements, ainsi que de l'eau pour nous laver, nous t'en prions, ô généreux Romain.
Il sera fait selon ton désir, » répliqua-t-il.
« Dieu est bon, » s'écria la veuve en sanglotant, « que sa paix demeure avec toi. »
« Je ne vous reverrai plus, » ajouta le tribun. « Préparez-vous à sortir d'ici. Ce soir, je vous ferai conduire à la porte de la tour et remettre en liberté. Vous connaissez la loi. Adieu. » Il adressa quelques paroles à ceux qui l'accompagnaient et disparut sous la porte. Peu d'instants plus tard, des esclaves apportèrent dans la cellule une grande cruche d'eau, un bassin et des linges, un plateau chargé de pain et de viande et quelques vêtements de femmes. Ils déposèrent tout cela par terre, à la portée des prisonnières, après quoi ils s'enfuirent, en toute hâte. Vers le milieu de la première veille, on les reconduisit à la porte et on les mit à la rue. Les Romains jugeaient que désormais, elles ne les concernaient plus. Elles se retrouvaient encore une fois libres d'aller où bon leur semblait dans la cité de leur père. Elles regardèrent les étoiles qui scintillaient gaiement, comme à l'époque lointaine où elles les contemplaient du haut de la terrasse de leur palais. Puis elles se demandèrent : « Où irons-nous maintenant ? Et que va-t-il advenir de nous ?